Bonjour à tous, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue à tous sur le podcast d'ExpatLang, Understand Native French. Moi c'est Jean-Baptiste, et sur ce podcast, je vous aide à apprendre le français oral, c'est-à-dire le français parlé par les Français au quotidien, et qui est souvent différent du français enseigné dans les livres et dans les écoles. Et le sujet d'aujourd'hui sera la lecture en français. Qu'est-ce que je peux lire en français? Cette question est certainement l'une de celles que mes étudiants me posent le plus souvent pendant les cours. C'est aussi l'une des plus difficiles. Pour de nombreuses personnes, la lecture est un excellent moyen d'améliorer son niveau, d'enrichir son vocabulaire ou tout simplement de mettre son français en pratique, et je suis bien d'accord avec elles. Cependant, il n'est pas toujours facile de trouver des ouvrages accessibles qui nous permettent de travailler notre français de manière efficace. Quelles sont les meilleures options de lecture quand on apprend le français ? Le premier réflexe qu'ont de nombreuses personnes, c'est d'essayer de lire des auteurs classiques comme Émile Zola, Jules Verne ou Victor Hugo. En effet, cela présente de nombreux avantages. En premier lieu, les histoires racontées par ces auteurs sont souvent passionnantes. Ensuite, c'est un bon moyen de découvrir la culture et l'histoire française, car on y découvre des modes de vie et des manières de penser qui influencent encore le pays aujourd'hui, au niveau des idées qui circulent dans la société ou dans le riche patrimoine culturel de la France. Mais lire de la littérature classique présente aussi certains problèmes. En premier lieu, les œuvres classiques sont souvent très longues, plusieurs centaines de pages, et bien souvent, le vocabulaire n'est pas facile et on doit vérifier la signification de chaque mot ou presque. Lire un roman classique peut donc être un travail très long et fatigant, même pour une personne apprenant le français depuis de nombreuses années. Par ailleurs, les structures de phrases sont souvent plus complexes et le vocabulaire qu'on y trouve n'a pas toujours d'utilité dans les conversations courantes. Ainsi, si votre objectif est d'améliorer votre vocabulaire quotidien, la littérature classique n'est pas forcément la meilleure solution. En réalité, il n'y a pas de réponse facile à la question « qu'est-ce que je peux lire en français ?». Cela dépend de vos centres d'intérêt, du temps dont vous disposez, de votre motivation et surtout de votre niveau actuel en français. Un premier conseil que je peux vous donner est d'essayer de lire en priorité ce que vous aimez lire. Si vous détestez la littérature classique dans votre langue, ne vous obligez pas à en lire en français. En revanche, si vous lisez beaucoup de magazines de jardinage, alors pourquoi ne pas essayer d'en lire quelques-uns en français? Ce sera une bonne manière de garder votre motivation au plus haut niveau. Dans cet épisode, j'ai décidé de vous offrir un aperçu de tout ce que vous pouvez lire en français. Et pour ce faire, j'ai demandé à mon amie Léa, qui travaille dans une médiathèque, de nous donner quelques recommandations de lecture. Cette conversation avec Léa a été tellement intéressante que je vais être obligé de la couper en deux parties. Dans l'épisode de cette semaine, elle nous présentera les différentes options qui s'offrent à nous pour lire en français. Et si vous êtes intéressé par certains des livres de cet épisode, vous en trouverez les références dans la description. Si vous vivez en France, vous pourrez facilement les trouver dans votre bibliothèque locale ou les acheter en librairie. Et si vous vivez à l'étranger, vous pourrez les commander sur Internet. Dans le prochain épisode, Léa nous présentera une manière tout à fait originale de pratiquer votre français dans les médiathèques de France. Sans plus attendre, on part retrouver Léa et j'espère que vous apprécierez ses conseils de lecture. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je vous invite aussi à bien rester avec moi jusqu'à la fin de l'épisode pour analyser les structures et expressions utilisées dans cet enregistrement et pour travailler un petit point de la prononciation spécifique du français oral. Enfin, si vous souhaitez travailler en détail sur cet épisode, je vous invite à utiliser le guide audio avec les questions et exercices pour vous aider à mieux comprendre la conversation. Ce guide audio est disponible sur le site internet d'ExpatLang dans la section « Podcast ». Vous trouverez le lien en description de cet épisode. Vous êtes prêts les amis ? C'est parti ! Léa, toi qui travailles en bibliothèque, une des questions qu'on me pose très fréquemment, c'est « quand j'apprends le français, qu'est-ce que je peux lire ?»
Alors, pour l'apprentissage du français, j'aurais pour avoir la langue courante, comme on la parle entre nous, de manière quotidienne. Je trouve les albums jeunesse, ils offrent une bonne base parce que c'est fluide, c'est des phrases, des constructions de phrases simples, et c'est du vocabulaire quand même courant.
Alors, qu'est-ce que c'est un album jeunesse ?
Alors, un album jeunesse, donc un album, ça va être un livre généralement avec un format un peu atypique, c'est vraiment pas du livre de poche.
C'est pas un roman.
C'est pas un roman, Il y a une relation très forte entre le texte et l'image. Généralement, il y a de l'image assez travaillée, de plus en plus maintenant. On va dire que les auteurs et autrices de littérature jeunesse sont vraiment des artistes.
Il y a des petits bijoux, c'est vrai.
Voilà.
Hein.
Et puis, le texte va se marier d'une certaine manière, va jouer avec l'image. Il ne va pas être agencé au hasard. Mmh. Il ne va pas se placer dans un coin de la page n'importe comment. Donc, voilà, on peut trouver, voilà, comme tu dis, des petits bijoux. Parce que déjà, l'image est attrayante, c'est chatoyant, ça fait plaisir à l'œil. Et quand on découvre le texte, qui est destiné quand même à des enfants. Et puis derrière, des fois, on peut y trouver aussi un second sens qui parle plus à l'adulte et qui parle aussi à l'enfant en nous. Et puis avec un vocabulaire vraiment tout à fait assimilable. Qu'on utilise quotidiennement, donc je trouve que c'est une belle approche pour...
Donc si je résume, un album jeunesse, en fait, c'est un livre qui raconte une histoire de manière littéraire avec un texte, c'est pas une bande dessinée avec des personnages et des bulles qui associent le texte au personnage.
Non.
C'est un peu le principe du roman, donc écrit en texte, en bloc de texte, mais il y a des illustrations avec, et souvent c'est plus court, si je me trompe pas, qu'un roman.
Ah oui, bah parce que quand même on essaye de s'adresser à une catégorie d'âge qui va entre 0 et 8-9 ans.
Donc ça, c'est les albums de jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut lire encore ?
Alors on peut lire donc de la bande dessinée, puisque là déjà l'image parle d'elle-même, on voit les situations en image avec un texte généralement court qui est contenu dans ce qu'on appelle les bulles. Le nom scientifique, c'est les phylactères. Mmh. Donc ça, pareil, moi, dans mon cas à moi, quand j'étais en Italie, j'avais pris des bandes dessinées de Corto Maltese et j'avais appris plein de vocabulaire parce que je comprenais la situation. Et ensuite, les dialogues faisaient que j'intégrais le vocabulaire qu'ils utilisaient et du coup, ça a vraiment enrichi mon vocabulaire.
Moi, j'aime beaucoup les bandes dessinées de Disney. J'adore Donald. Et c'est vrai que j'ai tendance à lire beaucoup de BD de Donald dans les langues que j'apprends parce que souvent, c'est la vie quotidienne. Donald, il se fâche, donc il utilise souvent des petits jurons, mais qui sont quand même faits pour les enfants. Et puis, c'est vraiment de la vie quotidienne. Il cuisine, il mange, il part en voyage. Enfin, voilà, on peut facilement apprendre du vocabulaire intéressant dans les bandes dessinées.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de bandes dessinées qui situent, en effet, les actions dans la vie quotidienne. Mm-hmm. Donc, c'est du vocabulaire qui va nous resservir même à nous. Mm-hmm. Donc toi, tu as parlé de Donald. Moi, je pense à... Alors là, il me vient une bande dessinée qui a beaucoup de succès auprès des jeunes, c'est Mortel Adèle.
Oui.
Donc oui, elle est dans ces situations quotidiennes. Après, c'est une petite fille qui est un peu spéciale quand même.
Elle est un peu violente et agressive, mais elle est très rigolote.
Alors c'est sûr que si on veut apprendre à envoyer paître le monde autour de nous, oui.
Mortel Adèle, c'est parfait.
Voilà.
Et c'est très bien Mortel Adèle en plus parce que c'est des sketchs d'une page. C'est 4 cases, je crois. Et il y a c'est des situations, c'est du comique de situation, mais très immédiat. C'est vraiment, en 4 images, on a compris l'histoire.
Oui. Oui, c'est sûr que ça s'étale pas avec un texte trop long, donc ça ne démoralise pas, ça décourage pas.
Quand on commence la lecture dans une langue étrangère, parfois on peut être un peu impressionné par la taille d'un texte, c'est-à-dire que commencer un roman de 150 pages, je pense que quand on lit dans sa langue, 150 pages c'est pas grand-chose, mais dans une autre langue c'est quand même beaucoup, donc de passer par des BD, des petits sketchs comme ça, c'est une bonne manière de commencer, c'est vrai.
Mmh. Oui, en effet ça nous paraît plus abordable. Et donc, on va rester accroché, alors qu'un roman, ça peut démoraliser. Dire, ouvrir toutes les deux secondes son dictionnaire de traduction, c'est casse-pied, c'est fatigant, et puis on perd la main. Puis on peut, au bout d'un moment, se dire, je laisse tomber, je suis arrivé à peine au tiers de mon livre. Alors que non, la bande dessinée, comme c'est des petites phrases, des textes courts, on reste accroché, puis la situation de gag fait que ça nous fait sourire. Donc voilà, on y prend un petit plaisir aussi.
Il y a une BD que j'aime beaucoup, c'est Cédric.
parce que Cédric, ça montre la vie d'une famille. C'est un petit garçon qui va à l'école, mais on voit aussi la vie quotidienne. Dans sa famille, il y a trois générations qui vivent, le grand-père, les parents, et lui, Cédric, qui est le petit garçon. Et l'auteur adapte les manières de parler en fonction des générations. Donc le grand-père ne parle pas de la même manière que les parents, qui ne parlent pas non plus de la même manière que Cédric. Et il y a beaucoup de parler oral, enfin de français oral dans la manière de parler, donc c'est un bon moyen de découvrir ça. Mmh. C'est pas vulgaire, donc c'est vraiment pour tous les publics, et c'est une bonne manière de, voilà, d'apprendre des structures de phrases que nous, on utiliserait au quotidien.
Oui, et puis, le fait est quand même que Cédric, je sais pas combien, quel âge ça a, cette série. Moi, je la connaissais déjà quand j'étais gamine, et il me semble qu'elle datait déjà. Et bien, actuellement, elle sort toujours autant.
Ah oui, toi, en bibliothèque, tu vois souvent des albums de Cédric qui sortent.
Ça a beaucoup de succès.
Ouais. Il y a même eu un dessin animé, c'est vrai. Mm. Mm-hmm. Et après, si on veut découvrir la langue orale, il y a aussi des albums de Pascal Brutal. C'est vulgaire, c'est vrai qu'il faut le lire au troisième, quatrième degré, c'est pas évident de le comprendre tout de suite, mais il a, c'est Riyad Satouf qui l'écrit, il a cette capacité à retranscrire la langue orale. Il faut apprendre à lire Riyad Satouf et il faut presque vivre en France pour reconnaître la manière de parler telle qu'il l'écrit. Mais c'est un très bon moyen de voir les évolutions de la langue à travers ces BD.
Alors, bah, Pascal Brutal, aussi, c'est quand même un personnage particulier. Il faut vraiment saisir le 36e degré du personnage.
Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, hein, clairement pas.
Riyad Satouf, ça ne parle pas toujours à tout le monde. Moi, je trouve que La vie des jeunes, déjà, il retranscrit quand même assez bien le parler.
Et les cahiers d'Esther aussi.
Et alors, les cahiers d'Esther, vraiment, ça, je recommande. Parce que déjà, c'est du parler... là, c'est le parler d'une jeune fille qui commence à partir de ses 10 ans jusqu'à actuellement ses 15.
Si je résume l'histoire des cahiers d'Esther, en fait, Esther, c'est la fille des amis de l'auteur de cette BD-là. Oui. Et en fait, il a décidé de créer une BD pour suivre sa vie et sa vision du monde. Il retranscrit la vision du monde de cette petite fille. Et chaque année, il y a un nouvel album. Donc, on a eu l'album de ses 10 ans, l'album de ses 11 ans, de ses 12 ans. Et on voit l'évolution de pensée et la progression vers l'âge adulte de cette jeune fille.
C'est ça. Et puis, en plus, ce qui, je trouve, est intéressant et bien, c'est que on devient amis avec... parce qu'on adore évoluer avec elle, on adore la suivre. Et ça, c'est important aussi. Quand on est attaché à un protagoniste, on a envie de le suivre et du coup de continuer à ses côtés. Donc, Les Cahiers des Stars, c'est peut-être ce que je recommanderais en premier de Riyad Satouf.
Peut-être plus facile à aborder.
Oui. Mmh.
Qu'est-ce qu'on peut lire encore parce que certaines personnes n'aiment pas forcément la fiction. Qu'est-ce qu'on pourrait lire si on n'aime pas vraiment la fiction?
Eh ben, alors dans les médiathèques, on a toujours un rayon magazine. Dans plein de domaines différents, sur le jardinage, sur la cuisine, sur
le bricolage.
Le bricolage, voilà.
La politique, l'actualité,
sur l'écologie.
C'est vrai qu'on a une grande diversité de magazines en France. Et l'avantage, quand on est abonné dans les bibliothèques, c'est que souvent, on a des abonnements numériques. Donc, on peut même lire en ligne
une
grande diversité de magazines.
Mm. Oui, on peut trouver de la presse en ligne, accessible. On trouve des publications de tous bords politiques et avec différents niveaux de lecture, de différents niveaux de difficulté de lecture.
Oui, tout à fait. Il y a des revues spécialisées qui rentrent dans les détails avec un vocabulaire très précis. Et puis, il y a des revues de vulgarisation où, au contraire, on essaie de rendre les situations et les contextes beaucoup plus faciles à comprendre.
Voilà.
Si cette conversation vous a semblé difficile, vous trouverez sur notre site internet www.expatlang.com, dans la section podcast, un guide avec toutes les étapes pour travailler efficacement sur chaque épisode. Et vous, est-ce que vous lisez en français? Quel type de lecture est-ce que vous préférez? Envoyez un mail à contact@expatlang.com pour partager votre expérience. Et si vous souhaitez découvrir les BD dont nous avons discuté avec Léa, vous les trouverez en description de cet épisode. Avant de passer à la suite, je vous demande quelques secondes d'attention. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast chaque semaine et ça me fait chaud au cœur. C'est un véritable plaisir pour moi de partager ces épisodes avec vous. Et si vous appréciez ces épisodes, je vous serai infiniment reconnaissant si vous acceptiez de mettre une note à mon podcast sur iTunes ou sur Spotify. En effet, votre notation me permettra de continuer à développer ce programme et à vous proposer encore plus de contenu intéressant. Alors c'est parti, je compte sur vous les amis. Mettez l'épisode en pause et mettez ces 5 étoiles sur iTunes ou Spotify. Vous êtes les meilleurs! Nous allons maintenant analyser cette conversation. Premièrement, les expressions. Voici une expression que vous pouvez utiliser lorsque vous parlez avec vos amis français. Envoyer paître. Écoutez cette explication de Léa pendant la conversation.
Moi, je pense à... Alors là, il me vient une bande dessinée qui a beaucoup de succès auprès des jeunes, c'est Mortel Adèle.
Oui.
Donc oui, elle est dans ces situations quotidiennes. Après, c'est une petite fille qui est un peu spéciale quand même.
Elle est un peu violente et agressive, mais elle est très rigolote.
Alors c'est sûr que si on veut apprendre à envoyer paître le monde autour de nous, oui.
Mortel Adèle, c'est parfait.
Voilà.
Apprendre à envoyer paître le monde autour de nous. Envoyer paître est une expression familière, c'est-à-dire qu'on utilise avec la famille et les amis, et qui signifie demander brusquement à quelqu'un de partir ou refuser une demande d'une personne. Le verbe paître en français représente, pour les animaux, l'action de manger les herbes des champs. Par exemple, à la campagne, il est très fréquent de voir des vaches ou des chevaux en train de paître dans les prés. Donc si vous envoyez paître quelqu'un, vous lui demandez d'aller manger l'herbe des champs, ou en d'autres termes, vous lui demandez d'aller très loin de vous. Ici, Léa nous parle d'un petit personnage de bande dessinée qui s'appelle Mortel Adèle. Cette petite fille est un personnage assez spécial qui ne supporte pas les enfants ou les personnes trop gentilles. Et quand elle trouve que quelqu'un est un peu trop stupide à son goût, elle lui joue un mauvais tour ou lui sort une vanne un peu sèche pour l'envoyer paître. C'est-à-dire qu'elle lui dit une phrase qui n'est pas très gentille pour qu'on la laisse tranquille. Dit comme ça, ça a l'air bizarre, mais c'est vraiment une BD très drôle. Comment utiliser l'expression « envoyer paître » ? En général, on n'utilise pas cette expression en s'adressant directement à une personne. Vous ne pouvez pas dire à une personne « va paître » ou « je t'envoie paître ». C'est une expression qu'on utilise plutôt pour faire la description d'une situation. Par exemple, si vous avez un voisin ou une voisine qui n'est pas très sympathique, lorsque vous parlez de cette personne, vous pouvez dire « ah, mon voisin est un peu bizarre, quand je lui dis bonjour, il m'envoie paître ». Un autre exemple, « mon frère m'a demandé de l'accompagner à l'aéroport à 3h du matin, mais je l'ai envoyé paître ». Vous voyez, dans ces deux exemples, on décrit une situation et on utilise l'expression « envoyer paître » pour présenter le comportement qu'une personne a eu envers une autre.
Moi, je pense à... Alors là, il me vient une bande dessinée qui a beaucoup de succès auprès des jeunes, c'est Mortel Adèle.
Oui.
Donc oui, elle est dans ces situations quotidiennes. Après, c'est une petite fille qui est un peu spéciale quand même.
Elle est un peu violente et agressive, mais elle est très rigolote.
Alors c'est sûr que si on veut apprendre à envoyer paître le monde autour de nous, oui.
Mortel Adèle, c'est parfait.
Voilà.
Voilà, nous en avons maintenant fini avec l'expression « envoyer paître ». Et nous allons tout de suite passer à la deuxième expression. Deuxième expression, les degrés. Écoutez cet extrait de la conversation entre Léa et moi concernant la bande dessinée Pascal Brutal de l'auteur Riyad Satouf.
Il y a même eu un dessin animé, c'est vrai.
Mm. Mm-hmm.
Et après, si on veut découvrir la langue orale, il y a aussi les albums de Pascal Brutal. C'est vulgaire, c'est vrai qu'il faut le lire au troisième, quatrième degré, c'est pas évident de le comprendre tout de suite, mais il a, c'est Riyad Satouf qui l'écrit, il a cette capacité à retranscrire la langue orale. Il faut apprendre à lire Riyad Satouf et il faut presque vivre en France pour reconnaître la manière de parler telle qu'il l'écrit. Mais c'est un très bon moyen de voir les évolutions de la langue à travers ses BD.
Alors, bah, Pascal Brutal, aussi, c'est quand même un personnage particulier. Il faut vraiment saisir le 36e degré du personnage.
Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, hein, clairement pas.
C'est vrai qu'il faut lire au 3e ou 4e degré. Lorsqu'on communique avec d'autres personnes, on peut transmettre nos messages de différentes manières. En général, on dit une phrase, et cette phrase représente clairement notre idée. Mais dans certains cas, on peut aussi utiliser des manières alternatives de partager nos idées. Par exemple, lorsqu'on cherche à critiquer quelqu'un ou quelque chose, il est fréquent d'utiliser l'ironie, aussi bien dans les conversations que dans les créations artistiques comme les films, les chansons et bien évidemment les textes. En français, ces différentes manières de communiquer nos idées sont généralement présentées en trois degrés. Le premier degré représente la communication directe. Dans cette situation, on essaie de communiquer notre pensée sans ambiguïté, c'est-à-dire de la manière la plus claire possible. Par exemple, si dans une fête vous voyez l'un de vos amis habillé de manière très élégante et que vous lui dites « j'adore ton costume », c'est réellement votre opinion. Ensuite, lorsqu'on dit une phrase au second degré, cela signifie qu'il ne faut pas comprendre la phrase exactement comme elle est prononcée. Il faut chercher le sens caché. Par exemple, votre boulanger vous vend une baguette à 10 euros, ce qui est extrêmement cher pour une baguette. Si vous lui dites « Eh bien, vous vendez des baguettes de luxe !» Dans cette situation, cela ne signifie pas que vous admirez la qualité de ces baguettes. Au contraire, avec cette phrase ironique, vous lui faites comprendre qu'il demande un prix beaucoup trop élevé pour une simple baguette. C'est donc ici du second degré. On doit chercher le sens caché de la phrase pour la comprendre. Enfin, le troisième degré représente un niveau de compréhension encore plus complexe. Une phrase au troisième degré peut sembler bizarre ou gênante et son sens est encore plus difficile à comprendre. Dans un livre, pour savoir si l'auteur utilise le troisième degré, il faut par exemple connaître ses opinions et ses croyances et les comparer avec le message du texte. S'il y a opposition entre les deux, il utilise certainement le troisième degré. Parfois encore, il n'y a même pas de sens caché et on cherche simplement à présenter l'absurdité d'une situation. La BD dont nous discutons dans cet extrait s'appelle Pascal Brutal. C'est une BD satirique qui fait une critique assez forte de la société française. Le personnage principal fait des choses qui peuvent sembler choquantes si on les lit au premier degré. Il faut en fait les lire au troisième degré pour comprendre le message de l'auteur. Lorsque je dis qu'il faut lire la BD au quatrième degré, ou que Léa nous dit qu'il faut la lire au 36e degré, ces degrés en fait n'existent pas. C'est simplement une manière d'insister et d'exagérer sur le fait qu'il ne faut surtout pas lire la BD au premier degré.
Il y a même eu un dessin animé, c'est vrai. Et après, si on veut découvrir la langue orale, il y a aussi les albums de Pascal Brutal. C'est vulgaire, c'est vrai que il faut le lire au troisième, quatrième degré. C'est pas évident de le comprendre tout de suite. Mais il a, c'est Riyad Satouf qui l'écrit, il a cette capacité à retranscrire la langue orale. Il faut apprendre à lire Riyad Satouf et il faut presque vivre en France pour reconnaître la manière de parler telle qu'il l'écrit. Mais c'est un très bon moyen de voir les évolutions de la langue à travers ces BD.
Alors, bah, Pascal Brutal, aussi, c'est quand même un personnage particulier. Il faut vraiment saisir le 36e degré du personnage.
Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, hein, clairement pas.
Voilà, nous en avons fini avec les expressions et nous allons tout de suite passer à la prononciation. Le mot « enfin » est très utile en français. Il sert à montrer la fin d'une explication et on peut aussi l'utiliser pour indiquer que l'on souhaite corriger ou apporter une modification à ce que nous sommes en train de dire. Pourtant, sa prononciation en français oral est généralement très différente. Écoutez cette phrase que je prononce.
Et il y a beaucoup de parler oral, enfin de français oral dans la manière de parler. Donc
vous avez entendu ? Ici, j'utilise le mot « enfin » pour corriger ma phrase. Et concernant la prononciation, je ne prononce pas « enfin », mais simplement « fin ». Dans l'épisode 5, je vous avais présenté le concept de syllabe fantôme. Lorsqu'on parle rapidement, on est parfois un peu paresseux et on ne prononce pas les mots complètement. Certaines syllabes des mots peuvent disparaître sans que la compréhension ne soit plus difficile, pour les natifs tout du moins. Dans l'exemple d'aujourd'hui, le mot « enfin » est prononcé avec une syllabe fantôme. Le « en » de « enfin » a complètement disparu et on prononce seulement « fin ». Nous allons maintenant travailler la prononciation de cette phrase. Répétez chaque partie de la phrase après moi jusqu'à la prononcer rapidement et de manière fluide. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de parler oral. Il y a beaucoup de parler oral, enfin, de français. Il y a beaucoup de parler oral, enfin, de français oral dans la manière. Il y a beaucoup de parler oral, enfin, de français oral dans la manière de parler. Il y a beaucoup de parler oral, enfin de français oral dans la manière de parler.
Et il y a beaucoup de parler oral, enfin de français oral dans la manière de parler. Donc
voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui avec la prononciation. Et si vous voulez travailler plus en détail la prononciation de ce dialogue et mieux comprendre le français oral, vous trouverez la description phonétique de cette conversation sur le site internet www.expatlang.com. Cette transcription vous montrera toutes les différences de prononciation entre le français oral et le français standard, ainsi que toutes les liaisons entre les mots. Vous pourrez donc lire le français comme il est prononcé. Nous sommes arrivés à la fin de ce 12e épisode du podcast d'Expatlang Understand Native French. Mais nous n'avons pas terminé notre conversation avec Léa. On se retrouve dans 2 semaines pour découvrir comment on peut pratiquer le français dans les médiathèques en France. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas réservé aux personnes qui vivent en France. Si vous venez visiter la France en touriste, vous aurez aussi de très bons conseils. Si vous avez des recommandations ou des demandes concernant ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message à contact@expatlang.com. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis.